Le voyage à Samoa, chapitre 5, cinquième partie. À bord de l'Austral, océan Indien par le travers de Cocos Island, 1er mars 1902. De longs jours depuis que je ne t'ai écrit, ma chérie. Mon voyage me semble si morne que je n'en ai pas le courage. Je compte les jours qui me séparent de toi. Toutes les 24 heures, nous gagnons 20 à 25 minutes et c'est comme une espèce de rapprochement. Aujourd'hui, nous entrons dans le mois où nous devons nous revoir et j'ai un peu plus d'énergie pour causer avec toi de si loin sur ce morceau de papier qui reviendra avec moi. Le détroit de Bass, où je t'ai laissé, est tout semé de masses rocheuses, demi-noyées, grises et roses, sous un ciel bleu froid. De là, nous gagnons, en côtoyant un autre petit cyclone, Melbourne et sa vaste rade, qu'il faut contourner 3 heures. Melbourne, avec ses banques massives et ses magasins maritimes. Sous un ciel lourd, ravagé par un vent qui étouffe, par une poussière qui fouette les joues et aveugle les yeux déjà éblouis par le rayonnement morne des nuages. Avec ces nuées de mouches qui s'attachent, agressives, aux vêtements et à la chair. Dans la grande baie, les énormes paquebots, les cargo boats, les steam launches semblent amoindris par l'étendue de la surface à peine ridée d'une mer enclose. Nous avons avec nous le doyen de l'église anglicane d'Adélaïde, Dean Marriott, le neveu de Captain Marriott, un bon vieillard à la figure ronde et glabre, aux beaux yeux gris clair et très sourd. Chose étrange, j'ai aussi rencontré à Sydney George Chamier, le neveu de Captain Chamier, qui écrivait en même temps que Marriott des romans maritimes. Melbourne à Adélaïde, que je vois de très loin, rade immense et incertaine, où nous ne séjournons que 3 heures. Puis nous allons traverser The Australian Bight. Un temps, Kangaroo Island nous protège, mais bientôt la grande ondulation australe nous saisit et le vaisseau roule bord sur bord. Presque lancé hors de ma couchette, j'assiste avec horreur à la sortie de toutes les malles qui glissent sur le plancher et se heurtent à la chute de tous les objets. Paquets, livres, un affreux chaos qui me désole et où les cancrelats trouvent leurs bénéfices. Il paraît que j'ai manqué la meilleure distraction des tropiques dans les mers du Sud. On prend un cancrelat et on le peint en vert. Sitôt lâché, il est mis en pièces par les autres immondes insectes. Tels sont les plaisirs des îles. Le Commodore Weaver passait des heures, oubliant sa machine à glace, à considérer l'Anka chassée et dévorée des araignées. Il paraît que l'Anka est un spider monkey. Toute la vaisselle des cuisines croule et dégringole à chaque coup de roulis avec un sinistre tintinabuli de porcelaine. Le lendemain, nous sommes à la corde de l'arc que forme la terre d'Australie. L'océan est à peine agité par un frisselis de rides mobiles. Mais cette mystérieuse houle géométrique le soulève en profondes ondulations venues de l'extrême limite des icebergs. Est-ce le remous furieux de l'océan qui brise au sud contre les banquises et qui expire ici par ces grands cercles concentriques, patiemment ondulants, comme les anneaux de serpents liquides et prodigieux. Partout, jusqu'au bord de l'horizon, cette longue houle monte, par courbes nettes comme des courbes d'épure. Et la ligne précise du grand cercle où la sphère du ciel rencontre le plan de la mer est rompue par une ondulation mobile où l'œil saisit encore parmi l'air la masse de l'eau. Fremantle, torride, avec ses longues collines où poussent les eucalyptus, les araucarias et les gommiers noirs. Nous avons longé l'horrible côte d'Australie, reprise vers King George Sound, avec ses montueuses dunes de sable blanc comme de la poudre d'ossement et tachées d'une lèpre noire. Rottnest a apparu, aride et désolé. Seulement la nuit, le port se fait mystérieux de lumière. Un fanal jaune étend une nappe d'or enveloppée d'ombre. Quelque part, une lumière rouge scintille au centre d'une côte déserte. Les étoiles australes brillent comme de l'acier bleu. Ici, l'arbitraire des lois australiennes atteint son comble. L'inspecteur de la Water Police, monté à bord, a emprisonné Ting et 5 hindous. On les a enfermés sous verrou dans un réduit près de l'Ice Room où on accède par des couloirs tortueux, des escaliers à pic, parmi des mares d'immondices où grouillent les cancrelats. D'une trappe obscure émerge un homme dont le feutre est couvert de neige, et derrière lui, dans les ténèbres, rougeoient des moutons tués et des bœufs ouverts. Je bondis à terre, indigné, et je demande à l'inspecteur des douanes l'attestation écrite de cet emprisonnement arbitraire. Refus. Je trouve le capitaine et je proteste. J'ai signé une garantie de 100 livres, et cette contrainte par corps viole la loi de l'habeas corpus. Devant mes déclarations de représailles, la douane cède. Ting et les hindous sont délivrés à 6 heures, après un emprisonnement de 2 heures et demie. À 9 heures, nous partons pour Colombo. De mars 1902. Nous voici en route pour les tropiques. Le ciel est orangé après que le soleil s'est enfoncé au bout de la mer, d'un orange délicat et lavé comme toutes ces couleurs célestes au nord de la ligne du Capricorne. Voici la dernière lune australienne. Soudain, au ras de l'océan, au centre d'une nuée noire et cotonneuse, un signe télégraphique flamboie. Une barre et un point de feu jaune. 2 secondes, la barre s'efface. C'est le fanal blanc d'un vaisseau invisible qui flotte à travers le ciel. Le nuage blanchit et s'auréole. Toute sa frange éclate de lumière d'or, et au-dessus, menaçante, une excentrique lame de métal rouge, chauffée à blanc, lame courbe et radieuse qui entame la nuit. Cette nuit, un énorme rat, gris et noir, au ventre blanc, est venu me rendre visite entre 1 heure et 2. Beaucoup de cancrelats lui faisaient cortège. Sur le Manapouri, montée du matin était souvent semée de leurs pattes fines. Ici, les purées sont farcies, tantôt de bouts de cigarettes, tantôt de morceaux de savon jaune. L'habitude triomphe du dégoût. À Samoa, je regardais les moustiques se poser sur mes bras et je supportais l'énervant chatouillement des mouches qui courent sur la figure. Le capitaine Nicholson de Manchester est un singulier spécimen du Lancashire. Très grand, très maigre, très noir, avec des cheveux demi-longs retroussés en bouclettes sur les tempes et des yeux lointains d'un bleu mouillé. Ses deux poignets sont cerclés de tatouages rouges et bleus de poudre. Infiniment silencieux, il devient subitement loquace comme une machine qui, déclenchant, parlerait du nez avec 333 000 révolutions à la seconde. Il est immense au poker et aux échecs, et fume toujours une pipe neuve parce qu'il a perdu l'autre. Sa mémoire inexorable est pleine à la fois de mauvais poètes, de logarithmes et de généalogies. Quelquefois, il attaque un passager et lui impose une lecture nasale à N. Tourdelice de son livre de bord. Nous avons à bord un millionnaire qui possède une mine d'or en Nouvelle-Zélande, méprise tout le monde, boit du champagne et fume des havanes sans en offrir, et poste des télégrammes de Melbourne à Sydney parce que, expédiés de New South Wales, ils sont dégrevés d'un shilling. Dans sa jeunesse, ce mastodonte à boutons de diamant a appris par cœur le 11e livre du Paradis perdu pour gagner un pari. Cela lui sert d'instruction. « Vous souvenez-vous, dit-il abruptement, si Milton fait soleil du masculin ou du féminin ? Non ? À cause de ses vers, rem terem teren steim stein, vous les trouverez au second livre du Paradis perdu. » Eh bien, le capitaine Nicholson, ayant saisi M. Marcher, s'appuya contre la lisse et, de son coup à 8 coups, 3 à 4, lui imposa la lecture de la description du ciel austral dans le manuel de navigation. Le pauvre millionnaire, douloureusement penché en avant sur son fauteuil de toile, craignant de froisser une autorité qu'il respecte à bord, s'efforçait d'entendre et même de comprendre. Tandis que le capitaine, bercé à la sonorité de son nez, s'enfonçait parmi D et B de la lyre, semblant Don Quichotte discourant de l'âge d'or, un fromage de chèvre à la main, au milieu des bergers de la caverne. Mars 1902. Le ciel des tropiques, avec sa ceinture floconnée de petits nuages feu, mauve et saumon. Ce sont des bandes tachetées et parallèles qui semblent lier l'espace. Mais c'est notre œil qui les crée. Mettez le cap vers cette barrière de vapeurs versicolores, droite au nord, droite au sud, et la barrière fuit. L'horizon se recrée plus loin. Toute cette fantasmagorie, ce sont les petits écheveaux de brume délicate, épars au zénith, émassés par la perspective. Ciel qui se roule et se déroule incessamment. L'air est doux, frais et moite, et sa tendre caresse fait perler la sueur. Le soleil se couche dans des bandes de gaz, douates noires trempées de sang caillé. Il frémit comme un bassin d'or fondu, drapé dans des haillons d'écarlate, noués de bandes de pourpre. Maintenant, c'est un lac de feu rouge avec une longue grève d'or. Les îlots de scories noircissent et rougeoient tour à tour. Plus haut, le ciel pâlit. Sa joue devient livide, claire de la clarté des visages morts. Au zénith du vert pâle, à l'occident de l'ocre. La mer orientale, sous un ciel gris sombre, est bleuée comme de l'acier trempé, et sous la gloire de pourpre et d'or qui sombre dans un chatoiement fugitif, mourant et renaissant à chaque seconde, la mer au couchant miroite en bandes sanglantes, plate comme un lac qui reflèterait des meurtres célestes parmi un halo de victoire. Mars 1902. Espace pluvieux sur la mer. Un cercle de bleu morbide règne au pied du ciel. L'océan morne semble bordé de deuil sous une atmosphère de pleurs. Nous passons la ligne entre 4 et 6 coups. Quittant la Lysée, nous avons trouvé dans ces régions incertaines la mousson du nord-ouest. Et, au-dessus de l'équateur, la mousson du nord-est nous saisira dans la mer d'Arabie. Toutes les brumes marines, réfugiées entre les courants aériens des alizés et des moussons, apportent autour de la terre une triste ceinture de larmes. Cette rive liquide du ciel, faite de bleu morne, et coupée çà et là par des pans de grisaille, des falaises de vapeurs obscures qui sont de la pluie équatoriale. Là où le vent ne souffle plus, le ciel pleure silencieusement sur le globe. Le monde boréal et le monde austral se confondent dans le deuil de leurs étoiles. La mer sous l'équateur est éternellement triste, ridée de pluie. Aux portes faites de larmes et qu'il faut franchir pour aborder aux îles fortunées. Mon cœur est gonflé de la mélancolie des nuages et des flots. Et cependant, les boristes ailés volettent comme des papillons. Un trait humide et argenté s'élance, flotte au ras de l'eau dans un long baiser. 10, 20, 30 bondissent, crevant la mer triste de minuscules remous. Pauvres petits poissons aux ailes si faibles et qui s'efforcent vers un ciel désolé. Et la pluie crépite. Et la mer frémit de son rire innombrable à travers les profondes larmes. Mars 1902. Mer d'Arabie. La mousson nord-est nous a pris au sud de Ceylan. Et, doublant la pointe de Galles, aux premières heures de la nuit, les lames brisent contre tribord. 4 heures du matin. Sous le ciel rose, la mer est semée de pirogues à balanciers, de catamurans et de petits cingalets droits, nus et noirs, qui pagayent et godillent, parfois à cheval, sur un tronc mal équarri. Les cris sont assourdissants. Cette fois, pour l'Austral, on entend « Dai, 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 dive ». L'accent est résolu, insistant, presque féroce. Les corbeaux tournoient sur la grande rade foraine de Colombo où nous entrons. Le ciel est frais, la brise délicieuse. Les grands palais rougis étincellent près des cocotiers, au-delà des masses luisantes de charbon sous les hangars. Un jeune rickshaw me mène le long de Galfas, sur la route rouge longée d'une barre jaune, de la ligne d'écume et de la mer bleu ciel. et, d'autre part, les grandes pelouses vertes, le lac et les massifs de cocotiers et de bananiers. Nous allons vers Mount Savinia, où, cette fois, l'océan bleu-ciel se perd dans le ciel bleu, avec son pointillé de vaisseaux fuyant au large dans un doux rayonnement d'azur. Et les longues lames meurent au pied des rochers avec une plainte tendre. Les fleurs d'hibiscus pendent comme de petites lampes jumelles brûlant dans la lumière d'un feu écarlate. Et je me souviens des filles de Samoa et du gracieux joyau rouge vivant qui caresse leurs joues. L'indigo est encore en fleur. Toutes ses branches grises et nues tendent toujours vers le ciel leurs cinq calices imbriqués, lourds et odorants comme des pétales de magnolia. Le flamboyant, nu de feuilles, semble agiter des flammes suspendues à ses fines branches noires. Le king cocoa nut, comme un fruit d'ocre, gît en grappes serrées au cœur d'une couronne de palmes. Inclinées, rampant à terre, obliques, verticales, les tiges de cocotiers s'élancent vers le ciel. Le palmier des voyageurs, vêtu d'un renflement semblable à un tumuleux d'écorce, ajoute ses anneaux à d'autres anneaux, jusqu'à la gaine verte qui le coiffe d'un éventail royal. Le suril laisse pendre ses longues corolles de safran, et tout le long de la ligne de huttes en boue sèche et en treillis de palmes, les femmes accroupies épouillent les longs cheveux noirs de leurs enfants nus. Des chiens de Ceylan dorment sur la lisière de la route, les oreilles droites, tout pareilles aux dingos d'Australie. Les tamouls, un linge au rein, portent sur l'épaule un fléau de bois flexible, d'où pendent de larges plateaux de balance en paille tressée, chargés d'épices et de fruits. Les confiseries indigènes sont bariolées de gâteaux dorés et de sucreries vertes. Les châtiers, de terre rouge, entassés devant les potiers, semblent sortir d'une tranchée ouverte dans la vieille terre d'Égypte. Les barbiers, la face contractée, à croupetons sur le seuil, rasent la tête noire de leurs clients musulmans, une main sur la nuque. Par la longue ouverture que laisse le déplacement d'une seule planche, qui est une porte, on voit le corps gracieux d'une fille qui avance la tête parmi un haillon de couleurs. Les bananes, vertes et jaunes et oranges, les mitchis rouges sombres, en boules griffues, pareilles à des chrysanthèmes qui seraient fruits, les muscades éventrées, les grains de cacao, les feuilles de bananier avec leurs petits bas de bétel, les flacons pleins de bonbons de coco, les courges de toutes sortes, quelques-unes courbées comme un bois d'arc vert, les pavages étincelles sur les étalages bas et au-delà du chemin, à droite et à gauche, règne le mystère du clair-obscur avec ses bigarrures de soleil et d'ombre. Son silence frissonnant de vie est tacheté comme une étoffe solaire faite d'ombre et de cercles de lumière d'un sous-bois de cocotiers. Et des tamouls pauvres passent avec de longs cheveux noirs luisants qui flottent sur leurs épaules. Et des parsis, des musulmans à tête rase, des malais à l'œil sanglant, coiffés d'une toque. Et toujours par la longue fente ténébreuse des maisons, un visage de femme avec un sourire rouge, toute la bouche saignant de bétel. Un crépuscule fait de poussière de turquoise et de feuilles de rose. le tressaillement de l'air nocturne près des bouquets de grandes fougères. La lune, pâle comme la gaze, puis dorée comme une joue, toute dévoilée, toute nue dans son impudeur d'Orient, et la croix du Sud, oblique au ciel comme un cerf-volant cloué de diamants. À 6 heures, nous nous enfonçons dans le ciel rouge, vers l'ouest, vers toi, ma chérie. J'ai ta lettre adorée, enfin. Pense, sans nouvelles depuis 3 mois. Mais la prise de charbon à Colombo a fait de l'Austral le plus noir des Nibelungen, où errent des formes blanches, tristes et souillées. Le millionnaire Marshall, éditeur du journal gastronomique The Table, pour Marshall's Gelatine, Marshall's Food, a bu beaucoup de champagne à Galfas Hotel. Ses poches sont pleines de fausses topazes, offertes à 25 livres, achetées à 2 shillings. Son costume blanc est indescriptiblement tatoué de charbon. 25 passagers ont embarqué à Colombo, parmi lesquels Lord Durhamer. Le dîner est en grande tenue. Soudain, au rôti, Marshall entre, vacillant, dans un roulis indépendant, tout chamarré de houille dans une blancheur mêlée de ténèbres, spectre du charbonnage, the ghost of coaling, et s'affale près de sa voisine décolletée avec un sourire débonnaire et béat. Hier, nous avons traversé sans doute notre dernière pluie des tropiques. Tout le ciel occidental n'était qu'une muraille de stries noires. À la hâte, on cargue les 2 voiles hissées le matin. Les cataractes s'ouvrent. La parole est noyée dans le tumulte de l'eau. Tout le navire frémit. Une grande lueur passe, ondulant dans le ruissellement de l'air, et le tonnerre s'abat dans les flots à une encablure de l'Austral. Toute sa force s'est épuisée dans ce coup prodigieux. Le ruissellement recommence. Les cataractes déferlent sur le pont et la muraille de stries noires, entr'ouverte, se referme derrière nous. Puis, peu à peu, la lumière se fait dans le soir. Le ciel plus pur est lambrissé de rose. Des poutres, faites de nuages enflammés, s'allongent à l'occident, parallèles comme au plafond d'une salle de château, et parmi elles glisse un grand disque d'or qui se barre de sang. Un soleil emprisonné derrière la grille de feu du paradis. L'Austral glisse sur la mer d'Arabie, bleu sombre sous le ciel bleu pâle. La lumière matinale irradie l'air. Cependant, le millionnaire, ayant commandé une bouteille de champagne, lui a trouvé goût de bouchon. « This wine is cooked. Cooked champagne. » Payne, le barman, est consterné. « That's always the way with those connoisseurs, » gémit-il. Monsieur Q, un charmant banquier de Balavat, me raconte comment il a assisté à la découverte des mines d'or dans Western Australia. Le magistrat du district, colonel Angelo, était un vieillard agité et nerveux. Un mineur ayant posé son havresac sous un buisson, un corbeau venait sautillant pour y picorer. L'homme ramasse une pierre pour effaroucher le corbeau. « Shies at him. » Il la trouve lourde, la regarde, elle était pailletée d'or. Le mineur arrive tout courant chez le colonel, et celui-ci, effaré, télégraphie au gouvernement « A miner took up a stone to throw at a crow. » Un point. Le secrétaire d'État répondit « Nonsense, what's became of the crow ?» Lord Joramere a causé longuement avec moi. Beau et trapu, avec des yeux clairs et des moustaches rousses, il est simple et naïf plus qu'un enfant. Il est allé chasser le tigre dans l'Inde et ne tuerait pas, je crois, une mouche. À 9 heures ce matin, à travers une brume bleuâtre d'horizon, Abdalkari, les deux îlots situés au sud de Socotra. La mousson du nord-est nous quitte. À 11h30 apparaît la terre africaine. Le mufle de lion du cap Guardafui s'étale vers le nord. En arrière, de hautes collines noires se terminent vers l'océan par des dents de scie. À 4000 se dressent des falaises volcaniques et nues, à peine ourlées d'un sable aveuglant. Et voici un long col de dunes qui réverbère du blanc chauffé à blanc, strié de bandes noirâtres qui sont des paillotes de Somalie. Nous entrons dans le golfe et la mer se hérisse de crêtes d'écume sous un courant contraire au vent. La terre est ici inhospitalière. Le désert semble le squelette dépouillé du globe. La falaise menaçante et la grève stérile exhalent l'odeur du naufrage. Et c'est sans doute de là que sont partis dans leurs canots à voile carré, sous les éternels moussons, les races noires qui ont peuplé l'Orient. Le rire somali est frère du rire polynésien. Là-bas, comme ici, les cheveux sont rougis à la chaux et les dents frottées de bois. Un monde peut-être a pris son essor près de cette ligne de points sombres sur la dune aveuglante et désolée parmi ces toits paillotes qui semblent de loin des touffes de goémons morts. Et après avoir peuplé de son essaim les îles orientales, la race somalie, attachée à son sable et à ses falaises, vit en dépouillant les navires revenus des îles d'Orient, parmi le tracassement de leur naufrage nocturne, au pied du cap sinistre flamboyant de faux feux, à la lisière extrême du monde africain. Et le cap Guardafui, Saturne à gueule de lion, dévore ses enfants prodigues. On a dansé hier soir. Le chief officier, avec les autres officiers, m'a invité à dîner. Table dressée sur le spar deck. Il y a juste la place pour deux bancs recouverts de l'Union Jack. Nous dînons à la mousson. Une seule lampe électrique au bout d'un filin se balance et nous éclaire. Cherry, whisky and soda et port wine. Au dessert, toast the king, puis le second, the French Republic. Il faut y aller des miens. Je propose British Navy, puis the chief and speedy promotion to commander. Three cheers. It for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, that nobody will deny. Histoire plutôt pimentée après les toasts. Our shoals, tight, cunts and pricks. Et puis le bal. C'est le jeune docteur Peterkin, adolescent à grandes oreilles de chou, nez gonflé, petits yeux, écossais Presbyterian Church, qui mène la danse. Ne vous fiez pas à l'eau qui dort. Ce timide jeune homme d'Aberdeen semblait muet, mais il s'est invité « The ladies at Mr. Nevett », au visage écarlate, à la moustache blanche. Père de la belle Miss Nevett, qui a un album de country houses en Angleterre et en Écosse, où ils vont par série. Saison à Londres, grouse en automne, fishing en Norvège, Riviera, Inde et Dacapo. Cette belle fille est blasée sur tout. Monsieur Nevett danse, magnifique, écarlate, parmi un col immaculé. mars 1902. Un ciel délicat comme une jeune corolle vert pâle et qui se décolore en bleu de bruyère. Tout le printemps des tropiques épars à travers les petites nuées roses. La mer dardant mille languettes d'écume. Le bouillonnement de l'eau le long de la carène. De la langueur, de la longueur, de la langueur. Tout l'être fondu dans la douceur et la mollesse. Tant qu'on éprouve à peine la caresse plus fraîche de la brise et que le hâle qui dore l'air obscurcit insensiblement le jour. Un bandeau d'opale ceint l'océan et, parmi sa transparence nuageuse, glisse un triangle de points noirs. Un vol d'oiseaux à la limite du ciel. Le triangle se rétrécit et se fait ligne. Les points noirs s'espacent, s'évanouissent dans l'opale, reparaissent comme un collier de perles noires dénoué dans une coupe hyaline. Puis diminue, et l'œil les suit jusqu'à ignorer s'il flotte dans sa prunelle ou par-delà cette vitre magique qui clôt la mer, l'horizon. Le lait de la grande coupe d'opale s'est mué en sang. Nous voguons vers le soleil en fusion. Les échelles de cordage noir dessinent leurs carreaux sur son métal rutilant. Le globe d'or échappe de maille en maille et la mer le tranche de son aile impitoyable d'acier sombre. Une ébullition écarlate sursaute au fond de l'océan. Puis l'ombre ouvre ses bras sur la mer et un crépuscule livide exhale sa plainte claire vers le zénith. Dans l'angle de deux drisses, la jeune lune est inscrite en bleu pâle comme un caractère arabe. Arc de sourire pur et inflexible, délicieux tatouage du ciel vespéral. Et, dans les ténèbres, voici suspendue une précieuse grappe d'étoiles fines, les sept sœurs si menues dans leur touchante union au centre mystérieux de la nuit australe. Le fanal, demi-caché par le mât d'Artimon, lui, jaune-rouge comme une escarboucle. Un coup de cloche, navire à tribord. Je me penche au-dessus de notre feu vert. Et voici, dans de la nuit liquide, une ligne de lumière tremblante, deux lucioles qui semblent flotter au-dessus et guider de leurs flammes jaunes le feu rouge qui troue les ténèbres. Un vaisseau qui passe sur la mer nocturne. mars 1902. Toute la journée, l'eau éblouissante a rayonné comme un plat d'argent aux ciselures mouvantes. Et le soir mourant, parmi son chatoiement gorge de pigeons, révèle un bloc noir comme suspendu dans une vapeur de béryl entre le ciel et l'océan, semblable à l'obscure montagne d'aimant des mille et une nuits. C'est le rocher d'Aden. De tribord, le vent passe à bâbord. La mer se soulève et semble s'attacher à la carène. Le long des sabords, les vagues grimpent comme des tentacules écumeuses et tenaces. L'îlot de Périm fuit à travers l'ombre sous ses deux phares scintillants. L'Austral franchit cette porte marine, Bab el-Mandeb, et nous sommes dans la mer Rouge, hérissée de dunes et d'îlots. Quelques-uns, ronds comme des dos de béhémotes flottants, portent des blocs blancs surmontés de coupoles que la lumière caressante du matin, qui erre entre l'Afrique et l'Arabie, bleuit et dort tour à tour. Nous allons nous revoir dans 10 jours. Comme c'est encore long. Je ne suis pas bien. Je traîne de médicament en médicament et j'aurais tant voulu rapporter un peu de santé, un peu de repos, un peu de travail. Dieu est très cruel pour moi. Quand je souffre, je ne me souviens pas, sans que les larmes me viennent aux yeux, de la grâce de Fanou et de sa tendresse. Il guettait ma fièvre avec ses grands yeux doux et m'éventait si patiemment de son éventail renversé, le Fa Samoa à la façon de Samoa. Et quand je lui parlais, il écoutait de tout son visage le murmure rauque et brisé de mes mots samoans, en gémissant « Talofa, Talofa » pour me plaindre et me calmer. J'entends encore la douleur de ce Talofa, si plaintif, la caresse de l'inflexion de sa voix. Et il me semble qu'assise à l'orée de la grande maison ronde de son père, il regarde par-delà le squelette de fer rouillé de l'Adler qui emprisonne le soleil couchant. Par-delà les barres vivantes de corail, vers les régions de l'Occident, où son Tama Macello s'est enfui pour mourir. Voici longtemps que je ne t'ai donné des nouvelles de Lanka. Il habite les appartements du boucher et la lisse du Spardec. Les matelots le bourrent de tout ce qu'on peut manger et l'adorent sous le nom de Ginny. J'ai dû résister aux supplications passionnées du boucher qui veut garder Ginny. Il s'est à moitié consolé en achetant à Colombo une petite créature triste, au pelage gris, à la face noire entourée d'un duvet blanc, aux yeux de charbon et d'or, qui pleure sans cesse comme un enfant de toute sa gueule rose. Quand on prend cette créature, Ginny la tire par sa chaîne pour la ramener. « Oh, nothing beats Ginny !» rugit le cœur enthousiasmé des marins. March 14, 1902. Les jeunes passagères ont demandé un bal improvisé et 3 lampes électriques sous un chapeau de tôle éclairent un pan du pont supérieur que les matelots ont frotté de blanc. Les filles du colonel Verschkoil valsent ensemble et le jeune docteur Peterkin, enhardi, fait tournoyer dans ses bras la femme entreprenante du pasteur Hanson. Cependant, la lune s'est levée. Dans le ciel d'une noirceur limpide, son croissant d'or semble étreindre entre ses cornes un globe d'ébène poudré d'argent. Ainsi, elle se balance au-dessus de la terre éthiopienne et couvre la mer d'une robe lumineuse. Et voici que son métal change, comme sous l'incantation alchimique des magiciennes d'Éthiopie. Elle était faite d'or jaune, elle est d'or rouge, d'or blanc, d'or vert. Quelque four céleste y souffle une couleur nouvelle, et la voici des reins pâles. Et maintenant, elle est rose comme le bord extrême d'un pétale de rose. Et maintenant, c'est le contour d'un charmant ongle de femme teint de henné, fin comme un cheveu fauve. Puis elle s'abaisse dans le ciel d'Occident. Sa courbe touche la mer. Un instant, elle y flotte comme un frêle esquif de feu, puis s'éteint comme une fleur brûlée. Et la profonde nuit ressaisit l'austral. La danse est finie. Appuyées à la lisse, les jeunes filles causent à voix basse. Et le chapeau de tôle posé sur le pont laisse échapper à leurs pieds une nappe de lumière. Mars 1902. Comme j'écrivais le 14 ces dernières lignes, nous passions l'îlot avide où s'élève le phare blanc des Brothers et un cruel vent du nord commençait à soulever la mer sous un ciel bleu et froid. Si longtemps le vent du nord nous a apporté le souffle chaud des sables et le vent du sud l'haleine glacée des banquises. Mais nous retournons vers la Méditerranée. Cependant, la bourrasque grossit, rien en vue, mais la poussée du vent s'engouffre dans les trois boyaux qui séparent l'Afrique de l'Arabie. Le pont supérieur est balayé par les embruns qui jaillissent à chaque coup de lame et retombent dans un éclatant arc-en-ciel noyé d'écume. Le navire passe sifflant dans un spectre solaire à travers une crinière blanche mouillée de glorieuses couleurs. Toute la fantaisie de la lumière s'élance vers le ciel et retombe dans un bris miroitant. Puis le soir enfle la tempête, et derrière la Sierra noire qui marque à l'Occident la limite du désert de la Haute-Égypte, le soleil se couche, rouge et brumeux. Une lune impitoyablement blanche blanchit encore la crête des lames quand nous pénétrons dans le golfe de Suez. Et le massif menaçant du Sinaï nous fuit dans les ténèbres. Un ciel gris et froid le 16. Lorsqu'à 7 heures du matin, nous arrivons en rade de Suez. Le thermomètre a baissé de plus de 30 degrés Fahrenheit, de 90 environ à 56. Le soleil pâle colore à peine la grande rive de sable où le désert semble mourir dans une dernière ondulation. Mais à l'ouest, la muraille rayée, comme par une glissière de montagnes en table, se teinte de rose et la mer y expire en bleuissant. Au fond de l'horizon, droit devant, les blocs des hautes maisons du port, réguliers et blancs, et la vaste plaine où disparaît le canal sinueux. Et la brise pousse vers l'Occident, à travers le ciel gris tendre, un tourbillon étiré de fumée d'un gris plus foncé. Le canal est bloqué. Cette fumée monte d'un navire en feu, d'un steamer chargé de pétrole qui flamboie au milieu du lac amer et dont on craint l'explosion. Le sinistre a atteint 2 vaisseaux de la même compagnie anglaise. L'un, chargé également de pétrole, est allé s'échouer dans sa fuite terrifiée sur la rive orientale. L'autre se consume comme un brûlot. Nous attendons. Le soir tombe avec ses couleurs d'Égypte. Les montagnes s'estompent de brumes violettes, le bleu du ciel s'épaissit. 3 maisons blanches se teintent d'ardoise. La mer est une lagune charmante, verte et azurée, et la robe étendue du désert jaunit à perte de vue sous un crépuscule rose. Les vapeurs de l'horizon, subtiles, semblent fondues dans l'éther, y diluer toutes leurs teintes dans une aquarelle claire et douce. Les mouettes. L'explosion du brûlot n'est plus à craindre. Son appontement est détruit. Nous repartirons à 2 heures dans la nuit. 6 heures du matin. Nous avons franchi les 25 000 qui nous séparaient du navire incendié et l'Austral glisse doucement sur les eaux du Bitter Lake. La large ceinture de collines, d'un violacé sombre, s'illumine à peine, sous la lumière du soleil qui commence à irradier une plaine céleste sillonnée de gris. Le lac est bleu-gris. Ça et là, coupé d'une ligne de verdure et des bouées de tôle peintes en couleurs claires, marque notre chenal. Devant nous, un transport français, le Cholon, et plus loin, le Persia, qui vient de Bombay. Et là, parmi le léger brouillard de l'aurore, encadré par les drisses et les échelles goudronnées de l'Austral, monte une triple colonne lourde, la colonne de fumée qui guidait les Hébreux à travers le désert d'Égypte, d'un noir massif dont les franges s'élargissent depuis la base et les volutes supérieures retombent en anneaux gigantesques sous la voûte du ciel. Du centre de cette barbare architecture, faite de ténèbres huileuses, rougeoie l'œil clignotant d'un four de braise écarlate. Et, bien que le vent s'élève vers l'ouest, cette trombe de suie volatilisée monte, massive et entêtée, droit vers le ciel qui éclaire les campagnes du Nil. Le Persia vire à tribord pour passer au large, le transport français Cholon. Tous les officiers anxieux sont sur la passerelle. L'Austral force la vapeur et, dans une courbe rapide, nous affrontons le danger. Nous voici à quelques encablures. Le vaisseau nous présente tribord par sa carcasse d'acier aux peintures éclatées et cuites. Des 3 réservoirs de pétrole s'échappent 3 immenses panaches cramoisies voilées de fumée noire. Un monstre de feu se tord dans un nuage d'ouragan. La vie s'échappe comme par un jet de sang flamboyant de ce squelette de fer. La ligne de l'avant tranche le ciel, nette comme une lame. Dans un incendie terrestre, le vent ulule dans les poutres flambantes. La maçonnerie croule, le jet des pompes siffle, la vapeur fuse en frémissant par les jointures des planchers. Les toits s'abattent et la clameur de la foule répond au tracassement rouge de la conflagration. Ici, parmi l'air matinal, le feu tournoyant dévore en silence dans la grande solitude du lac amer. Il n'y a pas un son, et pourtant les bras puissants de la fumée, dressés vers le ciel, se tordent d'agonie. Les tuyaux des ventilateurs et des manches à air, rigides, semblent des larynx desséchés par où s'échappe le râle muet du vaisseau. Et un de ces tubes noirs vomit un torrent de flammes cramoisies dont la chevelure éclatante se rabat sous le vent. Torche solitaire fixée là pour illuminer le sinistre. Et nous, fuyant à l'est, nous présentons bâbord. Puis, Redressant notre route, nous mettons le cap vers les régions supérieures du canal, laissant derrière nous cette forge marine dont le halètement s'étouffe dans sa lourde fumée. La triple colonne noire, avec un frémissement massif, s'écrase contre un ciel plus gris, tandis qu'au loin la ligne du désert, nuancée par la lumière, semble prolonger la couleur délicate de l'extrême rive de la mer. Déjà le terrible brûlot d'acier n'est plus qu'une légère tache d'un gris plus profond. Et le capitaine Nicholson, vaincu par la veille et l'anxiété, s'endort dans sa capote au col relevé, la pipe entre les dents. The Captain's Spotted Dogs. March 18, 1902. Pluie morne sur l'eau morte. Les vastes marécages s'arrondissent autour des tristes dunes hérissées de bouquets de roses opales. Quelques formes errantes passent le long des tranchées vaseuses inondées, enveloppées de manteaux sombres. De pauvres villages çà et là, où se pressent comme des dessales les maisons cubiques aux toits plats, faites de boue séchée, et qui, parfois ouvertes par une brèche, laissent échapper la paille comme des épouvantails éventrés. Sur l'auterne de la contrée inondée flottent des îlots de points noirs, des îlots de taches blanches. Les points noirs plongent et les taches blanches se meuvent. Ce sont des troupes de canards et d'oies sauvages qui pêchent, mornes comme le désert et comme le ciel. Le vent d'est, amer, souffle sur cette désolation. Dans le soir pluvieux, à travers la brume, voici les maisons de Port Saïd dont les couleurs sont mortes. Mais une vie factice anime le port, où les vaisseaux se massent comme pour une émeute. Les cris arabes déchirent l'air. Les fanaux s'allument et les lampes électriques scintillent. Et sur les radeaux de charbon s'agite un troupeau d'êtres noirs éclairés par des paniers de fer rutilants où le vent brûle furieusement la houille. Des lanternes de charbon incendiées fixés à des perches et qui lancent au loin leurs fusées d'étincelles. La nuit s'abat sous la menace du crépuscule et un concert de lumière éclate dans la rade. Fanaux verts et rouges et bleus et blancs, suspendus aux mâts, fixés aux lisses, balancés aux drisses et aux filins, attachés aux échelons de cordes. Et devant nous, la Méditerranée, jaune et triste comme la mer du Nord, roule de longues vagues dont l'écume pâle semble faire blêmir la nuit.